Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Voilà, 19h, passé de quelques secondes. Merci de votre fidélité. On est sur Europe 1 et c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Yannick Jadot sera le candidat des Verts à la présidentielle. Il a remporté cet après-midi la primaire écologiste.
La France réduit les visas accordés aux pays du Maghreb qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Première réaction du Maroc dans ce journal.
Jean-Michel Blanquer veut éviter les fermetures de classe. Un protocole sanitaire allégé va être expérimenté en primaire.
Plusieurs millions de ménages frappés au portefeuille avec l'envolée des prix du gaz. Le gouvernement réfléchit à un coup de pouce pour adoucir la facture. La tendance météo, Marlène Duret.
Un passage pluvieux sur le pays demain avec le retour du soleil une fois la pluie passée, accompagné d'air plus frais. Je vous en dis plus à la fin du journal. Europe 1.
Yannick Jadot vient donc d'être élu candidat des Verts à la présidentielle.
Il a remporté 51% des voix face à Sandrine Rousseau au terme d'une primaire marquée par une participation record. Plus de 122 000 inscrits. Jacques Serret, vous êtes au QG des Verts à Pantin. Les écologistes, Jacques, ont donc leur candidat pour 2022.
Oui, Yannick Jadot, eurodéputé et ancien directeur de campagne de Greenpeace France, l'emporte d'une courte tête. Juste après l'annonce des résultats, il s'est présenté face à ses militants. Effusion de joie pour ses troupes qui, on peut le dire, sont soulagées ce soir. Jadot, grand favori des Verts, avant cette primaire, ne gagne qu'avec 2100 voix de plus que sa concurrente. Il a immédiatement appelé au rassemblement.
J'ai porté une écologie qui rassemble. Chacune, chacun s'est engagé à porter un collectif, à faire partie d'un collectif. C'est ça que nous devons faire dans les mois qui viennent. J'ai gagné, l'écologie a gagné dans cette primaire. Et nous sommes une grande famille qui sera rassemblée, unie pour mener cette campagne.
Message visiblement reçu par Sandrine Rousseau. Quelques minutes plus tard, l'écoféministe radicale, sourire crispé ce soir, est venue saluer Yannick Jadot avant de lui annoncer son soutien.
Ensemble, avec tous les écologistes, nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure.
La primaire terminée, leur candidat désigné, les écologistes entrent bel et bien en campagne pour la présidentielle.
Merci Jacques Serret. Les candidats à l'investiture LR pour la présidentielle ont jusqu'au 13 octobre pour se présenter, mais Éric Zemmour n'a rien à y faire, prévient d'emblée Christian Jacob, le patron des Républicains. Le nom du candidat LR à la présidentielle sera connu le 4 décembre.
La France divise par deux les visas accordés à l'Algérie et au Maroc.
Oui, elle accordera aussi 30% de visas en moins à la Tunisie. Europe 1 vous dévoilait dès ce matin cette décision d'Emmanuel Macron. Une réplique aux pays du Maghreb qui refusent de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière, empêchant de fait leur expulsion du territoire français. Première réaction cet après-midi, le Maroc regrette la décision d'Emmanuel Macron, décision qu'il juge injustifiée. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères.
Le problème est franco-français, car il faut deux conditions pour revenir sur notre territoire. Il faut une carte d'identité marocaine et un test PCR négatif. Ce que ne disent pas les autorités françaises, c'est que la loi permet à ces personnes de refuser de se soumettre à un test PCR qui n'est pas obligatoire. Ainsi, tout comme la France n'admet pas l'entrée sur son territoire de Marocains qui n'ont pas effectué de test PCR, le Maroc refuse aussi de recevoir des personnes qui n'ont pas été testées.
Voilà, on vient donc d'entendre le ministre marocain des Affaires étrangères, Louis Dragnel. Le Maroc est pour l'instant le seul à réagir.
Oui, le seul des trois pays du Maghreb donc, qui a réagi pour le moment. Parce qu'il y a des pays donc, qu'on n'entend pas pour le moment. L'Algérie, par exemple, n'a encore rien dit. Mais il faut savoir qu'Alger réagit rarement à chaud dans ce type de situation. La Tunisie également ne s'est pas non plus exprimée, mais elle est moins impactée que les deux autres pays, puisque la France ne réduit que de 30% le nombre de visas délivrés. Ensuite, il sera intéressant de regarder le comportement du Quai d'Orsay en France, à Paris. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères n'est pas vraiment sur la ligne d'une réduction de l'immigration. On verra donc si nos diplomates appliquent les consignes d'Emmanuel Macron, ce qu'ils n'ont pas toujours fait depuis le début du quinquennat. Et enfin, il faudra regarder ce qu'il y a de plus important. Est-ce que la pression de la France produira ses effets? Nous l'avons révélé ce matin, entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des expulsions, et seulement 22 Algériens ont été expulsés. Eh bien, nous verrons assez vite si, par exemple, Alger reconnaît plus de ressortissants que la France cherche à expulser.
Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Nicolas Sarkozy était notre invité exceptionnel ce soir dans Punchline, Alexandre.
L'ancien président vient de publier son dernier livre, Promenade, où il dévoile son goût pour l'art et la culture. Nicolas Sarkozy, qui a notamment réagi aux récentes déclarations d'Éric Zemmour sur les victimes juives de Mohamed Merah. Le polémiste avait évoqué le fait qu'elles étaient enterrées en Israël et non pas en France. Réaction de Nicolas Sarkozy.
Quand on touche aux parents de l'école de Toulouse,
aux Aratora,
ça, j'accepte pas.
Qui ont inhumé leurs enfants en Israël.
Parce que j'étais président de la République, je les ai vus, jamais je les oublierai. On ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont intouchables. Voilà. Comprenez-moi, ce n'est pas au nom d'un débat d'idées, c'est au nom d'une souffrance que j'ai vue de près. Et s'ils veulent aller se faire enterrer en Israël, qu'on les laisse tranquilles. C'est respectable. Qu'on puisse parler de la souffrance de ces gens, c'est qu'on ne connaît rien à l'humanité et à ce qui s'est passé ce jour-là à Toulouse.
Nicolas Sarkozy sur Europe 1 et sur CNews.
Emmanuel Macron annonce des moyens supplémentaires pour la santé mentale.
Le chef de l'État clôturait cet après-midi les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, un secteur de la médecine dont la crise sanitaire a révélé le manque de moyens. Élise Dangean, une annonce d'abord pour les consultations de psychologues, Élise.
Oui, c'est la principale annonce d'Emmanuel Macron, le remboursement par l'assurance maladie des consultations chez le psychologue, et ce pour tous les Français à partir de 3 ans. La mesure sera mise en place dès l'année prochaine. Une prise en charge toutefois soumise à conditions. Les patients devront être adressés par prescription médicale dans le cadre d'un forfait de consultation. Le nombre de séances n'a pas encore été fixé, mais leur tarif, oui. 40 euros pour la première, celle qui sert de bilan. 30 euros pour les suivantes, sans reste à charge pour les patients. C'est la raison pour laquelle certains psychologues montent déjà au créneau, hein, car on est loin du montant moyen d'une consultation qui s'élève à environ 50 euros. Mais l'Élysée tempère. Le dispositif sera sur la base du volontariat. La question qui se pose est donc de savoir si suffisamment de professionnels sauteront le pas pour permettre un réel accès aux soins pour tous. Par ailleurs, le président a annoncé la création de 800 postes dans les centres médico-psychologiques à partir de l'année prochaine. Ces renforts doivent permettre de réduire les délais d'attente, parfois très longs dans ces structures. Enfin, 80 millions d'euros seront alloués à la recherche en matière de santé mentale.
Élise Dangean.
Et puis un nouveau protocole sanitaire va être testé à l'école primaire pour éviter les fermetures de classe.
Jean-Michel Blanquer veut assouplir la règle. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé ce matin. Dans une dizaine de départements, tous les enfants d'une classe ne rentreront pas chez eux si l'un de leurs camarades est positif. Marion Gauthier.
Oui, plutôt que de tous quitter la classe si un cas de Covid-19 y est déclaré, les élèves seront testés. Seuls les positifs iront se confiner, ainsi que ceux dont les parents refuseraient les couvillons. Ces règles pourraient être expérimentées dès lundi. Il faut encore fixer la liste des départements qui s'y plieront. C'est en tout cas un pas de plus vers la normale, souffle Hubert Salin, administrateur de la PEP. Le représentant de parents d'élèves espérait cette mesure.
C'est très compliqué pour les parents quand ils apprennent le matin à 8h30 ou qu'ils ne peuvent pas déposer leur enfant à l'école et qu'ils doivent le garder pendant une semaine. Alors dans beaucoup d'endroits, ça s'est bien passé parce qu'on était à 3000 classes fermées, donc ça fait une trentaine par département. Mais dans certaines communes, il y avait 5, 6, 7 classes fermées. Donc là, forcément, il y a l'inquiétude des parents en train de se dire est-ce que c'est cette semaine, la semaine prochaine que ça va nous tomber dessus ? Là, c'est quand même un signal qui est rassurant.
A priori, ce seront les professionnels de santé qui se déplaceront dans les écoles pour effectuer ces tests. Et c'est tout l'enjeu de l'expérimentation. Le ministère a besoin de savoir si les laboratoires sont capables de donner les résultats rapidement, sans trop ralentir le rythme scolaire des enfants.
Marion Gauthier.
Et puis restez avec nous. Dans un instant, nous irons au procès des attentats du 13 novembre. Et puis il y a aussi cette réflexion en cours au gouvernement pour atténuer la flambée des prix du gaz. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. La parole est maintenant aux victimes au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Et pendant 5 semaines, 350 témoins survivants ou proches de victimes vont mettre des mots sur l'horreur. Cet après-midi, l'audience était consacrée aux attentats du Stade de France. Les premiers à avoir témoigné, Marion Dubreuil, sont des gendarmes.
Oui, 6 cavaliers de la garde républicaine chargés de sécuriser les abords du Stade de France le 13 novembre. Quand il y a eu la première déflagration, explique le major Philippe, la gorge nouée, je venais de dire à mon équipe que la soirée s'annonçait calme. Il entend alors un cri qui déchire le silence. Il distingue une jambe. À peine le temps de se demander ce qu'un mannequin fait sur le bitume que le gendarme comprend qu'il s'agit d'un corps. Pierre, lui, s'effondre littéralement à la barre. Je n'ai pas la force de mes camarades. Il énumère ses différents hospitalisations. Hospitalisation en psychiatrie, les images et les odeurs qui persistent. Le terrorisme, c'est la terreur. Aucun de ces gendarmes n'a été blessé. tous ont été traumatisés. Quand Sophie Dias vient témoigner à son tour, elle tient à remercier ses gendarmes et Sarah, une rescapée dans la salle. Grâce à eux, elle en sait plus sur la mort de son père, Manuel Dias, la seule victime décédée du Stade de France. Son 13 novembre à elle, c'est une trentaine d'appels qui sonnent dans le vide. L'inquiétude, l'angoisse et puis la désolation. Depuis, elle a dû se marier sans son papa, le pilier de la famille, se battre et justifier son statut de victime. Elle n'a pas un regard pour les accusés dans leur box. Elle n'est pas là pour eux ou contre eux, mais pour la mémoire de son père.
Marion Dubreuil au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Le gouvernement cherche à adoucir la hausse des prix du gaz pour les ménages.
Oui, alors que les tarifs réglementés s'envolent à nouveau, plus 12,6%, sans compter une flambée des prix de l'électricité attendue en début d'année prochaine. Gabriel Attal a annoncé ce matin sur Europe 1 que le gouvernement travaille à de nouvelles mesures, en plus du chèque énergie. Jean Castex l'a confirmé cet après-midi à l'Assemblée, Maud Descamps.
Oui, face à cette flambée des prix historique. Le prix du gaz, par exemple, a augmenté de plus de 55% depuis le début de l'année. Le Premier ministre a assuré que des solutions étaient actuellement à l'étude.
Il s'agit d'une situation exceptionnelle, probablement conjoncturelle, mais qui appelle des réactions. J'ai donc demandé au service d'étudier des actions complémentaires qui seront présentées dans les tout prochains jours.
Alors de quelles mesures parle-t-on? Que ce soit du côté de Bercy, de Matignon ou encore du ministère de la Transition écologique, on se refuse à tout commentaire. Le gouvernement a déjà augmenté de 100 euros le chèque énergie. Un des autres leviers possibles serait de jouer sur la fiscalité en faisant baisser par exemple les taxes sur l'énergie. Autre solution possible qui pourrait être à l'étude, mettre en place un système de lissage des hausses en amont de la construction du prix d'énergie. En tout cas, une chose est sûre, les arbitrages sont en cours.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Et puis la soirée spéciale, eh bien, c'est sur Europe 1 ce soir pour le choc PSG Manchester City.
Les Parisiens reçoivent Manchester City en Ligue des Champions. Rendez-vous dès 20h pour vivre ce match en intégralité sur Europe 1, en direct du Parc des Princes où on retrouve Cyril de la Morinerie. Cyril, l'ambiance commence déjà à monter aux abords du parc.
Exactement, je suis vraiment au pied du Parc des Princes. À l'entrée, il y a l'écusson du PSG au-dessus de moi et une foule de supporters derrière des barrières aux couleurs bleues et rouges du club et qui attendent impatiemment l'arrivée des bus. Ça ne saurait tarder, c'est un événement, il y a une grosse attente de la part des supporters du PSG parce qu'évidemment Montpellier-Clermont c'est bien, mais Manchester City c'est autre chose, c'est le finaliste de la Ligue des Champions, le bourreau des Parisiens la saison passée en demi-finale de cette Coupe d'Europe, deuxième de Première Ligue, vainqueur de Chelsea le week-end dernier avec un jeu de possession, de redoublement, de passes diaboliques sous la direction de Pep Guardiola. City est donc redoutable, admet le capitaine Marquinhos, interrogé ce matin en exclusivité pour Europe 1 par le chef des sports, Jean-François Pérez.
Nous, on va jouer contre une belle équipe qui est en belle forme, en confiance. Et voilà, l'année dernière, ils nous ont battus. On va dire que ça va être un beau match, un gros match avec deux équipes qui sont bien, en confiance, qui ont des joueurs de qualité. Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle affiche de la Ligue des Champions, mais c'est vraiment un beau match, quoi.
Voilà, Paris devra aligner, si tout va bien ce soir, sa fameuse MNM. Messi de retour après deux matchs d'absence. Mbappé, auteur de 4 buts depuis le début de la saison. Neymar qui monte en puissance au fil des matchs. Donnarumma pourrait être titulaire dans les buts. Retour possible également de Verratti après sa blessure. En tout cas, après le nul à Bruges, Paris veut marquer les esprits ce soir lors de ce choc majeur.
Merci Cyril. PSG Manchester City au Parc des Princes. Rendez-vous donc à partir de 20h ce soir sur Europe 1 pour une soirée spéciale autour de Lionel Rousseau. N'Golo Kanté testé positif au Covid. Le milieu de terrain de Chelsea manquera donc la rencontre de son club contre la Juve. Demain soir en Ligue des Champions, il est aussi incertain pour le prochain match des Bleus qui se jouera contre la Belgique dans une semaine. La météo, c'est une nouvelle perturbation qui arrive. Marlène Duret, programme d'automne pour demain, pluie et fraîcheur.
Oui, mais pas toute la journée, Alexandre. Comme prévu, la perturbation qui est arrivée aujourd'hui va continuer de traverser les régions du quart nord-ouest cette nuit. On englobe d'ailleurs la région parisienne. Et puis demain, on va la retrouver en matinée de l'Aquitaine à la Champagne-Ardenne, en débordant sur l'ouest de la Lorraine, en passant par les Charentes, le Limousin, le nord de l'Auvergne, le Berry, une grande partie de la Bourgogne. Dans toutes ces régions, ciel gris et parapluie plus de rigueur, dans une ambiance venteuse. Et puis une fois passé, là, le soleil pourra revenir. Quelques averses encore peut-être entre le nord de l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie. Puis dans l'après-midi, cette perturbation va continuer de progresser vers l'est en perdant de la vigueur. Elle se délite, comme on dit, et on la retrouvera des Pyrénées à l'Alsace et au Savoie en évitant le golfe du Lion qui va simplement voir arriver un soleil voilé. Les températures, elles vont baisser. On est un peu en dessous des moyennes de saison, sans excès. Il fera encore doux, en revanche, près de la Méditerranée. Comptez 15 à 20 degrés sur une grande moitié nord, entre 19 et 24 au sud, avec des pointes entre 25 et 29 sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup, Marlène Duret, pour cette météo. Alexandre Demers, rendez-vous à 20h pour l'info. Et nous, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur le diagnostic posé par Nicolas Sarkozy il y a quelques instants. Il était mon invité dans Punchline sur l'état de la politique française et le désamour des Français pour la classe politique. À tout de suite.